Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Philippe Askenazy.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes économiste au CNRS, vous avez publié Partager les richesses chez Odile Jacob. Xavier Jaravel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à la London School of Economics. Et Xavier Rago, bonjour.
Bonjour.
Président de l'OFCE, vous avez publié Civiliser le capitalisme chez Fayard. Alors, un petit mot avant de commencer sur les cinquièmes rencontres de l'avenir qui se déroulent à compter d'aujourd'hui jusqu'à dimanche au Palais des Congrès de Saint-Raphaël. C'est un événement organisé tous les ans par Nicolas Bouzou, que vous connaissez bien ici. Donc il y aura évidemment des conférences sur des quantités de thèmes, l'avenir du nucléaire, l'Ukraine, même l'état du journalisme aujourd'hui, la santé bien sûr, l'économie. On pourra y croiser des gens comme Luc Ferry, David Pujadas, Olivier Babot que vous connaissez bien sûr, Robin Rivaton, Emmanuel Combes, Michel-Édouard Leclerc, Pierre Gattaz, il y aura aussi Frédéric Ancel ou encore Michel Alliot-Marie. La liste n'est pas exhaustive, c'est gratuit, on peut s'inscrire sur rencontre au pluriel, tradeunionavenir.com. Le bouclier tarifaire, je vous donne les principaux éléments qui ressortent de cette étude signée de l'Institut des politiques publiques et du CEPREMAP, qui est l'Observatoire de recherche de l'économie de Paris. Il fallait faire le bouclier tarifaire, c'est le meilleur compromis possible. On a limité l'inflation, on a évité l'effet de second tour, on a préservé la consommation des Français, on a évité un creusement des inégalités, car en plus de ce bouclier, s'ajoute pour les plus pauvres, le chèque énergie, par exemple, et on a sauvé 1,7 point de croissance en 2022. Il faut continuer en 2023, à nouveau pour limiter l'inflation et à nouveau pour sauver en partie la croissance. Xavier Rago, qu'en pensez-vous ? Je me souviens que sur ce plateau, vous m'aviez dit probablement il fallait faire ce bouclier, il faudra continuer d'ailleurs.
Oui, je pense qu'on partage certaines des analyses, peut-être moins les montants que ceux évoqués.
Alors, j'ai donné aucun chiffre là.
Oui, voilà, bon. Ils ont des montants élevés, mais grosso modo, sur cette question énergétique, il y a deux approches. Il y a une approche, je dirais, macroéconomiste et une approche de microéconomiste sur l'utilisation efficace de l'argent public. Là, ce qu'on voit, c'est face à ce choc colossal sur l'énergie, moi, je suis stupéfait que ça passe comme une lettre à la poste, le fait que l'État décide de contrôler un prix, il décide de contrôler le prix de l'énergie en disant, voilà, tous les ménages auront, et les petites entreprises et TPE, auront des hausses des prix de 15%. Donc, je contrôle un prix. Mmh. On a une socialisation complète du marché de l'énergie et de l'électricité.
Oui, oui.
Donc, après la socialisation du marché du travail dans le Covid, on a une socialisation du marché de l'énergie. Je pense que cette idée-là, qui, au départ, était une spécificité française, hein, je tiens à le dire, elle se diffuse en Europe. Et on a vu, et vous avez parlé de l'initiative allemande de 200 milliards. Les Allemands, au début, ils n'étaient pas convaincus, mais maintenant, ils y vont avec beaucoup de marge budgétaire. Dans l'urgence, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée et effectivement, ça a permis d'isoler beaucoup les ménages de ce choc énergétique. Et donc, les ménages ont continué à consommer en grande partie. Et donc, ça a soutenu la croissance de l'ordre de 1 point, 1, 2. Bon. Donc, et ça réduit l'inflation de 2 points.
3, dit l'INSEE. Hein.
Alors, 3 sur 2023.
D'accord.
Effectivement. 2023, on est à peu près d'accord. C'est à peu près, il a augmenté dans la dimension budgétaire en 2023. C'est 3 points d'inflation en moins. C'est colossal, 3 points
d'inflation. C'est colossal, non, ça c'est colossal.
Donc ça change tout. C'est bien pour la France parce qu'on avait trop d'inflation dans le passé par rapport à l'Allemagne, je tiens à le dire. Donc ça nous permet de rattraper un peu de d'écart de niveau des prix. Bien. Ça, c'est le tableau idyllique en disant, voilà, l'État... Maintenant, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça fait 45 milliards, c'est beaucoup d'argent.
Donc, alors, 45, mais attends, parce que ça déçoit. On dit 110 quand on regarde sur 3 ans.
Oui, moi je dis 45, c'est le budget 2023.
D'accord.
Dans le budget,
oui,
c'est okay. Pas sur 3 ans. Oui. Effectivement, il faut être précis sur les chiffres. C'est la budgétisation 2023.
Oui, c'est monumental. Oui, c'est voilà. Monumental.
C'est 2 points de PIB. Donc, quand même, on peut se dire que avec autant d'argent, on pourrait peut-être faire mieux si on ciblait un petit peu plus sur les pauvres et les classes moyennes. Et de pas aider tout le monde quand même à ce point-là.
Parce d'accord.
Que, voilà, c'est l'État, grosso modo, je vais vous révéler un... c'est pas un secret, j'étais sur les routes de Normandie vers la Manche, peut-être avec beaucoup d'auditeurs dans les bouchons. Il y a des énormes SUV, il y a d'énormes voitures. Je me dis, est-ce que c'est légitime de faire ce bouclier, de financer les gros consommateurs qui sont sur les routes, voilà. Donc peut-être, il faut être plus efficace maintenant sur 2023, prendre le temps de réfléchir, cibler sur l'efficacité économique, parce qu'au final, c'est la France qui va payer cette facture énergétique par des impôts futurs. Ciblons mieux, peut-être, pour l'avenir.
Elisabeth Borne dit ce matin, confirme qu'il y aura une aide pour les gens qui travaillent en 2023 sur le carburant, que ceux qui travaillent et la moitié des travailleurs les moins riches qui ont une carte grise.
Pour être précis, on arrête la subvention aux fossiles, à l'essence en 2023. Donc là, ce qui va rester en 2023, les 45 milliards, c'est juste l'électricité.
Hein. Oui. Mais enfin, on n'arrête pas totalement. Elisabeth Borne dit la moitié des ménages français seront éligibles à ce chèque carburant. Bon, Xavier Jaravel, par rapport à ce qu'on a dit, et puis Philippe Askenazy, sur finalement le bilan plutôt positif. Parce que l'idée, c'est le contrefactuel. Où en serions-nous si nous n'avions rien fait ?
Oui, c'est vrai que c'est peut-être, du point de vue de l'analyse économique, c'est quand même un peu surprenant que le grand message de l'étude, ce soit que c'était le meilleur compromis possible.
Ah là,
je sais bien. Peut-être juste pour replacer les choses dans la perspective européenne, d'autres pays, Xavier Rago le disait il y a un instant, ont aussi soutenu les ménages, notamment l'Allemagne, mais avec des approches très différentes.
C'est ça.
Et l'idée globale, c'est de dire qu'on peut donner une aide qui est davantage ciblée et qui aussi préserve le signal prix pour, par exemple, les derniers mégawattheures consommés. Et il y a plein de manières pragmatiques de le faire. C'est fait en Allemagne. Ils ont lancé un dispositif comme ça. C'était fait dans d'autres pays comme la Belgique ou des régions comme la Californie avant. Donc on peut avoir des boucliers tarifaires plus intelligents, plus ciblés, qui permettent à la fois de mieux cibler sur les ménages modestes et de préserver aussi le signal prix, c'est-à-dire que pour au moins les ménages plus aisés, vous aurez une incitation à consommer moins et ça permet aussi de réduire la tension du coup sur la demande et donc, par effet induit, de réduire les prix. Donc, après, l'étude est intéressante parce que c'est utile d'essayer de quantifier, mais il me semble que la question qui doit être posée, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Le contrefactuel, c'est pas aucun bouclier tarifaire. Et même du point de vue purement macroéconomique, de dire on veut soutenir la demande, le fait
que ce soit... Ah, ça c'est une question qui me passionne.
Déjà, dans la période actuelle, c'est évidemment un peu surprenant, puisque on a une période d'inflation élevée, on a une période de marché du travail très tendue, donc soutenir la demande n'est pas la priorité du point de vue macroéconomique. Et même si on acceptait l'idée qu'on veut soutenir la demande, être davantage ciblé sur les ménages plus modestes, c'est une meilleure manière de soutenir la demande puisqu'ils ont une propension à dépenser qui est plus élevée. Le ménage aisé va réduire son épargne et donc il y aura un effet sur les inégalités moindres et un effet sur l'activité économique aussi qui pourrait être meilleur avec des dispositifs davantage ciblés. Et juste pour à nouveau insister sur le sujet des inégalités, on sait que ces aides sont en fait régressives quand on parle en euros dépensés puisque les ménages aisés touchent davantage. Pour l'électricité, par exemple, les deux déciles supérieurs consomment beaucoup plus de 20% de la consommation totale d'électricité. Et donc, on redistribue de fait davantage aux ménages aisés. Donc, on peut dire politiquement, notamment dans la période qui s'est écoulée avec les élections, peut-être que c'était nécessaire, peut-être que c'était utile, mais du point de vue économique, c'est assez difficile de défendre ça. Et donc, il me semble que c'est important dans le débat économique de bien mettre en avant qu'il y a de bien meilleures approches, qu'il faut des aides davantage ciblées, notamment parce qu'à l'Assemblée, on a des partis divisés qui ont chacun des intérêts un peu différents et c'est difficile de s'accorder sur les aides ciblées. Donc, je pense que la responsabilité un peu de l'analyse économique, c'est de bien montrer pourquoi ces aides ciblées sont très importantes. Ciblées pour ensuite préserver les finances publiques et les problèmes de dette.
C'est toujours intéressant d'avoir l'œil purement économique sur des sujets qui sont éminemment politiques également. Alors, il y avait la solution, j'écrase les prix, je socialise les prix, ou alors je laisse les prix s'exprimer et je subventionne directement. Alors, allez, je vais laisser réagir Philippe Askenazy par rapport à tout ce qui a été dit, Philippe. Partir sur la réflexion qui vous vient.
Je pense que c'est quand même en amont intéressant de souligner que ce type d'exercice qui a été présenté hier est un exercice qui a été mené comme l'OFCE par des instituts indépendants.
Oui, indépendants.
Et sont venus lors de la conférence à la fois le président de la commission des finances et le rapporteur général du budget, donc LFI, comme la majorité présidentielle était présente. Parce que par derrière, en France, l'Assemblée nationale n'a pas elle-même l'expertise, la capacité, alors même que c'est elle qui vote le budget, de pouvoir faire ce type de travaux en interne. C'est soit l'État central, en quelque sorte, le Trésor, soit ce sont la nécessité d'organismes indépendants. Donc derrière cela, il y a déjà aussi une question démocratique qu'on ait besoin de passer par ce type de rapport. Alors, je dirais que je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le constat, et ça joue quand même sur le fait que la France actuellement a plutôt une croissance supérieure à celle de l'Allemagne. On n'a pas de décroissance comme en Grande-Bretagne. Il y a eu un soutien aux revenus des ménages, mais quand même aussi une grande partie des ménages qui sont dans la première moitié de la distribution des revenus et qui auraient eu un choc très très important sur leur pouvoir d'achat.
Donc alors, il fallait cibler la demande, c'est ce
alors,
que vous me dites.
Non, alors, et oui, il fallait, le problème c'est qu'on ne sait pas nécessairement faire la chose en France. C'est-à-dire, comment faire pour arriver à avoir une politique ciblée ? Lorsqu'on voit déjà tous les dispositifs d'aide publique et le fait qu'il y a un non-recours important en France, eh bien, lorsque vous faites ce type de dispositif totalement généralisé, effectivement, ça a tendance à être en partie réductif, au sens que ça profite aux plus riches, mais ça profite aussi à tous ceux
qui sont... Et c'est sûr que si vous faites un truc 100%, vous touchez 100%.
Voilà, oui,
là,
exactement.
Il n'y a pas de doute. Hein.
Derrière, moi je comprends tout à fait, je suis tout à fait dans la ligne de l'argumentaire qu'il faut faire des outils plus ciblés.
Il n'y a pas un économiste qui me dit le contraire.
Voilà, mais est-ce
vous
que
vous avez un rapport qui vous dit le contraire?
Pardon?
Maintenant vous avez un rapport qui vous
non,
dit
que
c'est pas
exactement
très grave.
Vrai. Hein, lorsque oui, on regarde le c'est à nouveau, je pense que la manière dont il le présente, c'est compte tenu de 1. On devait faire vite, compte tenu de la capacité même technologique de la France de mettre en œuvre des dispositifs ciblés. Et je crois que effectivement, maintenant, il faut avoir une réflexion. Comment on fait techniquement pour mettre en œuvre
ces dispositifs ciblés ? Vous racontez, on ne sait pas en fait cibler un dispositif et être certain que 100% de ceux qu'on cible.
Voilà, c'est ça.
Xavier Rago, oui.
La mesure idéale, les économistes pour
la mesure idéale. Allons.
Les auditeurs, voilà, c'est que. En fait, il faut aider les ménages.
Oui.
Donc, ce qu'on a essayé d'instruire dans différents cercles, mais c'est trop compliqué, je tiens, toute complexité, elle est essentielle pour éviter le non-recours. C'est qu'il faudrait mesurer la consommation normale de gaz, par exemple, celle en corrigeant du Covid, par foyer, et, disons, 80%, voire 90% de la consommation 2019, on le fait à un prix très bas. C'est-à-dire que j'assure que...
C'est logique allemande, ça.
Oui, et les 10% autres, mais oui. C'était une proposition française avant. Je vais y revenir là-dessus, parce que malheureusement, je suis pas sûr que ça se fasse en Allemagne. Et les 10% de plus, ils sont au prix de marché. Ouais. C'est-à-dire que vous assurez une consommation des ménages, pour la très grande partie de la consommation, des besoins de base, et puis les dépenses un peu additionnelles pour chauffer un peu plus, bah vous les payez très cher. Et donc, mais au moins, le besoin fondamental est assuré. Et vous donnez 90% pour les ménages les plus pauvres, et puis pour les ménages les plus riches, 70%.
Excusez-moi, mais techniquement,
voilà.
Alors là, pour le coup, je rejoins Philippe Askenazy. Vous imaginez l'histoire.
Et ça, malheureusement, c'est pas possible. Parce que vous voyez, il y a une double conditionnalité de l'aide sur la consommation passée en corrigeant du Covid et sur le revenu. Donc cette belle histoire que je vous ai racontée, qui a été promue par les 5 sages allemands dans un rapport et qui a fait du bruit en disant il faut cibler, etc. Plein de gens ont essayé de la mettre en œuvre au niveau technique administratif. Et j'ai hâte de voir est-ce que les Allemands vont réussir à le faire administrativement, parce que c'est trop compliqué par rapport à l'ensemble des ménages.
On a bien vu d'ailleurs qu'ils avaient renoncé au chèque carburant il y a quelques mois, parce que c'était l'enfer de faire coïncider les revenus avec la carte grise, l'adresse de l'entreprise, les kilomètres parcourus, est-ce qu'il y a un bus en bas de chez moi ? On a laissé tomber et on a préféré faire la ristourne généralisée pour tout le monde. Xavier Jarabel, allez-y.
Oui, il y a en Colombie-Britannique, en Californie, ce type de grille tarifaire que vous avez décrivé à l'instant, donc non linéaire avec cet effet, ça existe déjà. Donc, il me semble que le point technique n'est pas du tout indépassable. Et en Allemagne, il me semble que la proposition qui est à l'étude, c'est de regarder en fait la facture d'électricité de l'année dernière. Et de vous donner 70% de ce montant-là.
Il faut corriger du Covid.
Et après,
le débat, de la température.
C'est imparfait, mais c'est infini. Étant donné les montants en jeu, pour remettre en perspective 50 milliards sur un an, voilà, c'est l'équivalent de France 2030, qui est l'investissement qu'on peut faire sur 10 ans. Donc on peut dire que c'est imparfait, etc. Mais les enjeux sont tellement importants. Et il me semble que la limite, elle est, voilà, la vraie contrainte, elle n'est pas technique, mais elle est plutôt politique. Puisque cibler, ça va du coup forcément laisser certains ménages de côté. L'électorat de certains partis est peut-être parmi ces ménages-là. Il faut savoir rassembler à l'Assemblée nationale pour faire... Il me semble que la vraie contrainte, elle est là, plutôt que sur l'aspect technique.
Mais d'ailleurs, il y a un élément de cette étude qui souligne qu'il y a quand même, une zone de perdants. C'est-à-dire ceux qui, aujourd'hui, les plus modestes, ont droit au bouclier tarifaire plus des aides supplémentaires comme le chèque énergie. Ceux qui gagnent un tout petit peu plus, qui ne sont pas éligibles justement à ces aides additionnelles, c'est le début de la classe moyenne qui bosse, qui paye des impôts et qui a l'impression de ne jamais rien toucher. Politiquement, c'est très mal vécu.
Après, en ciblant, vous pouvez aussi aider davantage ceux qui sont vraiment dans le besoin. Et le meilleur exemple, là, c'est plutôt le chèque, la partie carburant remise à la pompe, avec les annonces d'Elisabeth Borne sur le fait que ce soit maintenant davantage ciblé sur les gros rouleurs
qui
doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Et ça, c'est très important.
L'histoire des non-recours aussi, parce qu'a priori, il va falloir s'inscrire sur le site de la DGFiP. Avec ses revenus, son numéro de carte grise, on verra ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Quelque chose à ajouter là-dessus ? On a fait le tour, je crois, de l'histoire. C'est intéressant d'avoir cette étude. On sait faire des contrefactuels ? On serait capable de dire où en serions-nous si nous n'avions pas ? C'est possible, ça ?
C'est notre métier, oui.
De fait, c'est l'exercice qui a été fait. Lorsqu'il est dit que 1,7% de gains de croissance, 1,6% sur la consommation, c'est effectivement des tentatives. Alors, effectivement, il y a des très, très larges marges d'incertitude, mais chaque modèle obtient un scénario médian. D'ailleurs, c'est bien qu'il y ait plutôt plusieurs modèles concurrents pour essayer d'avoir un portrait peut-être plus fidèle de ce que pourrait être un contrefactuel.
Il y a deux manières de faire des contrefactuels. Une approche vraiment empirique, où on regardera directement ce qui s'est passé. Dans ce cas-là, ce n'est pas possible parce que c'est trop macroéconomique comme changement. Donc, c'est basé sur un modèle. Et là, ce qui compte, c'est en fait de s'accorder sur le mécanisme économique qui, on pense, est le mécanisme principal qui est à l'œuvre. Et de ce que je comprends de l'étude, sur la base des éléments disponibles, c'est que l'idée générale, là, c'est vraiment du point de vue de la demande. Grâce au bouclier tarifaire, on a redistribué vers les ménages, on a augmenté la demande. Et à nouveau, dans la période actuelle, est-ce que vraiment augmenter la demande, c'est une bonne chose pour le PIB plutôt que pour l'inflation ? Je pense que ça se discute. Donc pour moi, ce serait ça le point à discuter.
Là-dessus, avant de marquer une pause, effectivement, on a fait le choix de la demande après le premier choc pétrolier, après le deuxième choc pétrolier, on fait le choix de la demande systématiquement. Alors on a un effet vertueux et à peu près éphémère, mais est-ce que c'est le bon choix, Philippe Askenazy ? On faut aller droit au but parce que.
Non, mais le droit au but, si on n'avait pas des millions de pauvres en France, on pourrait être d'accord sur le fait qu'on ne va pas essayer de soutenir au moins pour l'ensemble de cette population.
Mais là, on redistribue.
Et on parle pas de leur consommation.
Ah non, mais on parle pas des. Enfin,
mais le sujet.
Là, on parle d'un soutien à la demande quasi généralisée.
Oui, mais
je vais vous rassurer. Ce qui a monté en 2023, c'est le soutien aux entreprises aussi.
Voilà.
Qui est un peu l'angle mort pour l'instant de la politique. Et là, qui est en cours d'instruction. Et là, vis-à-vis des entreprises, on peut être un peu plus sophistiqué comme des outils. Parce que, notamment, les entreprises au-delà de 50 salariés ont des structures d'administration, des comptables. Ils comprennent un peu plus les dispositifs publics. Donc là, ce qui est en cours d'élaboration, c'est trouver une manière d'aider les entreprises, pas seulement les électro-intensifs, pas seulement les gazo-intensifs, des entreprises plus loin dans la chaîne de valeur, sans dépenser trop d'argent et en passant ce choc énergétique pour éviter les vagues de faillite au moment où on doit rembourser les PGE. Donc il y a le solde de la crise Covid qui se cumule à la crise énergétique.
On va en parler tout à l'heure parce que les industriels, surtout les industriels, sont très inquiets. Là, on a des appels qui se multiplient encore ce matin sur l'antenne de BFM Business dans le secteur de l'immobilier en disant que les montants annoncés pour le bouclier tarifaire entreprise en 2023 sont totalement insuffisants et notamment l'inquiétude des industriels en France et en Allemagne devant ce que les Américains sont en train de faire. Alors certains diront que c'est du protectionnisme. Ça y ressemble. En tout cas, le texte anti-inflation adopté l'été dernier aux États-Unis est quand même une vraie préoccupation maintenant en Europe. On marque une pause. Dans un instant, je vous ferai réagir à Elisabeth Borne, justement, qui veut accélérer France 2030. C'était pas inintéressant de mettre en parallèle ce que coûte le bouclier 2023 par rapport à ce que France 2030 représente en termes de relance de l'activité française sur une dizaine d'années. À tout de suite.